Juste après le journal. Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Toute l'information. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, les réactions après les déclarations choc hier de Donald Trump sur l'avenir de la bande de Gaza. Le président américain a dit vouloir prendre le contrôle du territoire palestinien, déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. Nous sommes à Jérusalem dans un instant. À suivre également les conséquences pour Haïti du gel par les États-Unis de leur financement de la mission multinationale de police contre les gangs armés. Et puis en France, examen dans l'après-midi de la première motion de censure déposée par la France insoumise. Le Rassemblement national devrait confirmer dans la journée qu'il ne votera pas la motion, tout comme le Parti socialiste. La Chine réagit ce matin après les propos tenus hier par Donald Trump sur l'avenir de la bande de Gaza. Le président américain qui dit souhaiter une prise de contrôle américaine de long terme à Gaza et l'expulsion des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. La Chine se dit ce matin opposée au déplacement forcé des Palestiniens. Les propos de Donald Trump qui ont été tenus hier en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a semblé dans un premier temps décontenancé par cette annonce, mais qui a salué par la suite une décision qui, je cite, pourrait changer l'histoire. Sami Boukhelifa, Donald Trump a dit ce que l'extrême droite israélienne défend depuis maintenant des années.
Plusieurs ministres israéliens, ceux de l'extrême droite notamment, appellent ouvertement à l'expulsion de tous les Gazaouis. Durant 15 mois de guerre, Benjamin Netanyahou a tout fait pour déplacer de force la population de Gaza, la pousser vers l'Égypte voisine, en vain. Donald Trump épouse donc cette vision et lui donne même un vernis humanitaire, car pour lui, les Palestiniens de Gaza méritent mieux, ils méritent de vivre en paix dans un bel endroit et dans de bonnes conditions, loin du champ de ruines qu'est Gaza. Donald Trump a tout prévu, les Gazaouis resteront vivre dans la région, en Égypte ou en Jordanie. Ces deux pays rejettent catégoriquement cette proposition. Ils l'accepteront, dit avec détermination Donald Trump, qui affirme que d'autres pays du Proche-Orient adorent cette idée. Expulser de force les Gazaouis de leur terre constitue un crime de guerre, c'est un nettoyage ethnique. Les Palestiniens ont réagi sur les réseaux sociaux et certains suggèrent cette autre idée. 80% des Palestiniens de Gaza ne sont pas originaires de Gaza, mais de villes devenues israéliennes lors de la création de l'État hébreu en 1948, Jaffa, Haïfa, Beersheba. Si les Gazaouis devaient être déplacés quelque part, le plus simple serait de les laisser rentrer chez eux, dans leur ville d'origine devenue israélienne. Sami Boukhelifa, Jérusalem. RFI.
Et le Hamas, comme plusieurs dirigeants palestiniens, a réagi ces dernières heures, notamment par la voix de son porte-parole. Il déclare que la position raciste américaine s'aligne, je cite, avec celle de l'extrême droite israélienne dans le déplacement de notre peuple et l'élimination de notre cause. Colère hier soir également de l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, qui appelle les dirigeants du monde à respecter les souhaits des Palestiniens qui adorent vivre à Gaza. Et puis réaction glaciale de l'Arabie Saoudite. Riyad écarte toute normalisation avec Israël sans la création d'un État palestinien. L'administration américaine qui poursuit par ailleurs ses coupures budgétaires massives dans les dépenses publiques. Selon la presse américaine, un projet de décret visant à fermer purement et simplement le département de l'éducation est dans les cartons. Autre indiscrétion de la presse, le Wall Street Journal affirme que la CIA, l'agence du renseignement extérieur américain, a engagé un plan de départ volontaire. Les 10 000 employés de l'USAID seront eux en congé administratif à partir de vendredi. L'USAID, c'est l'organisme qui gère l'aide humanitaire américaine et qui a vu la quasi-totalité de ses fonds gelés, notamment la contribution à la mission multinationale déployée en ce moment en Haïti contre les gangs armés. Avec 15 millions de dollars, les États-Unis étaient le deuxième contributeur de ce fonds derrière le Canada. Écoutez à ce propos Diego Dadarin, expert à l'International Crisis Groupe et spécialiste d'Haïti.
La mission était déjà plus ou moins moribonde, avec un grand manque de fonds qui ne lui avait permis jusqu'ici que de déployer un tiers des forces qui devaient arriver sur le terrain. Ces 13 millions n'allaient pas complètement sauver la mission de tous ces problèmes financiers, mais ça représentait de toute façon une contribution qui allait permettre de maintenir les contingents qui sont en train d'arriver en ce moment. Mais si d'ici un ou deux mois, il n'y a pas de nouvelles contributions qui permettent non seulement de maintenir les troupes qui sont déjà sur le terrain, mais de continuer à déployer des contingents qui sont absolument nécessaires pour faire changer le rapport de force entre les forces de sécurité et les gangs. La mission pourra, dans le meilleur des cas, maintenir quelques contingents sur place, mais qui ne peuvent que réagir de manière réactive à des attaques de gangs et pas de déployer leur stratégie de sécurité qui avait été planifiée. Et dans le pire des cas, les personnes de la mission vont devoir retourner dans leur pays.
Diego Darin, expert à l'International Crisis Group, spécialiste d'Haïti. Direction l'est de la République démocratique du Congo, où la crise humanitaire s'accroît à Goma avec l'afflux de milliers de blessés dû aux récents affrontements entre l'armée appuyée par ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les Nations Unies ont revu le bilan de ces affrontements à la hausse, près de 3000 morts, indique l'OCHA, Bureau de coordination des affaires humanitaires. Une véritable catastrophe nationale, c'était par ces mots sur les médias nationaux que les Togolais apprenaient il y a tout juste 20 ans la mort de leur président, Niasimbe Eyadema, s'éteignait à l'âge de 69 ans, dont 38 à la tête du pays. 2 mois de deuil national étaient alors décrétés. Retour sur la journée du 5 février 2005 et les semaines qui ont suivi avec Magali Lagrange.
Période d'incertitude pour les uns, début d'une nouvelle ère pour les autres, le 5 février 2005 est un jour historique dans la vie politique togolaise, résume Bergès Miété, enseignant-chercheur à l'Université de Libreville. Ce jour-là, Niasimbe Eyadema décède à bord de l'avion qu'il évacue à l'étranger pour des soins médicaux. L'appareil fait demi-tour et rentre à Lomé. En cas de vacance du pouvoir, la constitution togolaise prévoit que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim jusqu'à des élections anticipées, mais le président de l'Assemblée, Fambare Gnatchaba, est alors hors du pays et en raison de la fermeture des frontières togolaises, son vol est dérouté vers le Bénin. L'armée constate une vacance totale du pouvoir, annonce que Faure Niasimbe, le fils du président défunt, assure la continuité jusqu'à la fin du mandat de son père. Faure Niasimbe, 39 ans et alors ministre, reprend son siège à l'Assemblée où les députés le portent à la présidence. Le 25 février, sous la pression internationale notamment, Faure Niasimbe recule, il se porte candidat à la présidentielle d'avril, il est déclaré vainqueur. Une élection marquée par des violences, les Nations Unies évoquent 4 à 500 morts entre le 5 février et le 5 mai 2005.
Magali Lagrange du service Afrique d'RFI. En Suède, la police évoque 10 morts dans ce qui est déjà qualifié de pire tuerie de l'histoire du pays. Une fusillade a éclaté hier dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro dans le centre du pays. 11 morts si l'on compte le tueur qui est décédé. On ne connaît pas ses motivations, mais pour la police, tout porte à croire qu'il aurait agi seul et sans motif idéologique. En France, François Bayrou affronte 2 motions de censure après avoir activé à 2 reprises l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2025 et le budget de la Sécurité sociale. Le Parti socialiste ne votera pas la motion qui sera examinée cet après-midi, déposée par la France insoumise, qui devrait être le cas également du Rassemblement national. Pendant ce temps, les Républicains se réunissent, eux, en bureau politique aujourd'hui. Le chef de file des députés, Laurent Wauquiez, compte présenter ses pistes pour refonder le parti. Et ce, alors que la droite croit dur comme fer à son grand retour avec, dans toutes les têtes, la présidentielle de 2027. Et dans l'ombre, une nouvelle guerre des chefs qui semble se dessiner, Victorien Villaume.
Démarrage à 11h pour ce bureau politique qui doit permettre au parti de droite de définir une nouvelle organisation et d'aller de l'avant, explique le député Patrick Hetzel.
La feuille de route, c'est de voir comment nous pouvons faire évoluer nos statuts d'une part et puis organiser évidemment des élections pour les instances décisionnelles de notre parti.
Participation au gouvernement, augmentation des adhésions, victoire électorale récente. La réunion s'organise alors que la droite relève la tête ces derniers mois, assure la députée Virginie Duby-Muller.
L'attitude de responsabilité qu'on a choisie est plutôt soutenue par la population. Et puis, on a eu plusieurs élections locales ce week-end qui ont quand même conforté la droite.
Mais qui pour diriger le parti ? Une guerre des chefs se profile dans l'ombre entre le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, et le ministre de l'Intérieur qui a la cote, Bruno Retailleau. Patrick Hetzel.
Nous laisserons évidemment les candidats se manifester. Le plus important, c'est qu'il y ait aussi un débat. Il y a toujours eu plusieurs candidats. Il en sera sans doute de même cette fois-ci.
Ce bureau politique ne permettra pas d'ailleurs de décider des modalités de désignation du candidat de la droite à la présidentielle. Laurent Wauquiez ayant repoussé cette épineuse question À plus tard.
Victorien Villaume du service politique d'RFI, 10h10 ici à Paris. Merci d'écouter la Radio du Monde. Vous restez avec nous. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Paré pour Priorité Santé.
Un grand merci à vous, Jeanne Bartoli. Toutes ces infos, RFI.fr.